Bon, voilà, le thème était assez ambitieux hein, sur les rapports du collectif au singulier, des générations qu'on a connues et des temps qu'on a traversés. Donc j'ai préféré écrire quelque chose, c'est toujours plus précis que dans une parole vide, mais je vais essayer de faire en sorte que ça ne soit pas trop lu. J'ai grandi au milieu d'une fratrie de quatre garçons, en lisière de Paris, au tournant des années 60. Et seuls les aînés avaient droit aux vêtements neufs et aux jouets immaculés, j'ai appris d'emblée à partager. Les pantalons étaient trop grands. J'étais condamné aux pulls raccommodés et aux vestes renforcées aux coudes. Je baignais dans le collectivisme empirique des familles nombreuses, là où tous les enfants sont égaux, mais où certains le sont un peu plus que d'autres, comme aurait dit Orwell. J'avais beau essayer de compenser mon handicap en ponctionnant le portefeuille paternel, c'était à moi d'être partageux, pas à mes aînés. À moi de recycler les souliers usés et leurs chemises démodées, non l'inverse. À moi la sensation d'être un enfant de seconde main. Quand notre mère tomba malade, gravement malade, ce fut encore à moi de faire la cuisine et le ménage, sans que cela m'attire la moindre gratitude. Le statut de cantinière n'avait aucun prestige aux yeux des aînés. Seuls les livres de savoir comptaient pour eux. J'ai profondément admiré ces frères-là. J'avais beau être cadet qu'on disute, comme dans les chansons de Matelot, l'exutoire désigné de leur sadisme affectueux, ils me faisaient franchir de nouvelles étapes à chaque fois. J'ai tant appris d'eux, tant joui des retombées de leur curiosité et de leur intelligence, que la plupart des professeurs m'ont paru ennuyeux ensuite. Je préférais me former directement auprès des aînés que le tumulte des années 70 me fit rencontrer en nombre. Je pense aux militants qui recrutaient au sortir des métros et des lycées, comme aux intellectuels qu'ils sollicitaient, en tentant parfois de les instrumentaliser. Car les penseurs les plus actifs d'alors ouvraient volontiers leurs portes aux jeunes gens hirsutes comme moi. Ils allaient parfois jusqu'à nous héberger, nous donnant ainsi accès non seulement à leurs idées, mais à leur intimité. Nous prenions l'égalité la plus radicale et nous étions accueillis en même temps par les plus prestigieux. Ils encourageaient jusqu'à notre mise en cause de toute forme de contrainte et d'autorité. Ce temps que nous dénoncions comme celui de l'injustice généralisée, comment n'y verrions-nous pas aujourd'hui une sorte d'âge d'or rétrospectif, un petit paradis laïque? Nous faisions tout ensemble, par groupe de 5 ou de 100. Nous vivions en communauté, travaillions en coopérative, animions 1000 comités. Le moindre prétexte nous voyait sortir en masse qu'il s'agisse d'écouter de la musique ou de proclamer nos idées. Nous voyagions en bande et faisions l'amour à plusieurs sans grande distinction de sexe. Nous étions plus vigilants sur l'âge. Nous disions nous en toute occasion et de fait, nous étions nous bien avant d'être soi. J'étais les autres, me semblait-il, comme ils étaient moi. Nos affrontements incessants encourageaient eux-mêmes au mimétisme. On s'influençait si bien qu'on se trouvait dans des sortes de marées psychiques. Le plein emploi aidant, nous n'avions aucune inquiétude pour l'avenir. Nous pouvions nous imaginer dans un tout un tas de rôles, la plupart nous semblaient à peu près interchangeables. Nous refusions d'achever nos études et d'embrasser la même spécialité, il n'y en aurait plus à l'avenir. Notre conviction était faite là-dessus. Nous anticipions le jour où on serait maçon le matin, légiste l'après-midi et peintre ou poète le soir à sa guise. Qu'importe si cette perspective mettrait un siècle pour s'accomplir, nous avions l'éternité pour nous. De chacun selon ses forces, à chacun selon ses besoins, avait souhaité le philosophe qui nous servait d'idole barbu. L'avenir allait immanquablement assurer la réalisation de tous les potentiels humains. Nous étions convaincus d'être nés jeunes et joyeux comme nos parents étaient nés vieux et soumis. Ils avaient accepté humblement de participer à la reconstruction, de sortir de la guerre. Nous étions génétiquement impropres aux tâches subalternes. Notre âge était notre essence, notre façon désinvolte de vivre allait nous préserver de toute dégradation. On n'est pas contre les vieux, mais contre ce qu'il a fait vieillir, crions-nous, certains que cette honte nous serait épargnée. Par les vertus d'une grâce d'État, nous n'appartenons pas à la même espèce que nos vieux. Il existait des formes d'envie entre nous, mais elles restaient honteuses ou inexprimées. La solidarité était censée recouvrir les intérêts privés, l'égoïsme, la jalousie. Nous étions bien parfois traversés par un sentiment d'irréalité qui devait aux privilèges que nous avions reçus en naissant dans un pays que l'histoire et la géographie avaient gâté, au cœur d'une ville partout enviée. Mais qui aurait osé dire que le nuage stupéfiant où nous voguions n'était pas la vraie vie? Quelqu'un l'aurait fait, on ne l'aurait pas entendu. Nous étions si soudés que rien ne pouvait nous atteindre. Cette croyance spontanée dans le nous s'est affaissée en quelques saisons, dans la deuxième partie des années 70. On s'est réveillé les contemporains complaisants de déportations systématiques pratiquées en Asie par des bataillons de gardes rouges ayant notre âge. Nous avons découvert, avec un retard souvent dû à notre refus de savoir, qu'ils avaient privé des millions d'hommes de leur terre, de leurs biens, de leurs proches, de leurs noms même. Ils avaient commis les pires crimes dans l'espoir de faire naître une humanité nouvelle, purgée de ses scories égoïstes et de ses pulsions inégalitaires. Ils avaient infligé à leurs victimes une ascèse touchant au servage, qui devait redonner à chacun sa pureté originelle. Pour engendrer le peuple nouveau, ils avaient décimé l'ancien. Le phénomène ravagea le Cambodge, mais toucha aussi la Chine, le Vietnam et la Corée du Nord, où il persiste à travers l'instrumentalisation de la famille. Il nous révéla le drame du collectivisme imposé et du partage à somme nulle, dont plus personne ne tire le moindre profit, les idées de pénitence et le goût du sacrifice l'emportant sur tout. Nous avions été religieux sans le savoir, tout en étant fiers d'être incrédules. Impatients d'assainir et de purifier, nos cousins asiatiques venaient de nous montrer comme il est facile de tuer à grande échelle quand on est convaincu de travailler pour l'éternité. Cette forme de criminalité vertueuse nous laissa sans voix. Nous n'avions tout partagé que pour servir une idéologie sans pitié. Qu'est-ce qui avait rendu ces erreurs possibles, ces horreurs possibles, sinon une forme d'abdication de nos facultés, le refus d'interroger, un renversement inéluctable. Rendu obsolète par la chaleur de l'élan révolutionnaire, le sens de ce qui est juste ou de ce qui pouvait devenir criminel avait cessé de relever de notre intime appréciation. L'histoire était en marche vers l'établissement d'une collectivité supérieure, toute autre hypothèse à relever du passéisme le plus honteux. Choqués par ces découvertes, nous avons commencé à crier avec moins d'ardeur nos slogans. Délaissant nos groupes en fusion, oubliant les cris incessants des assemblées générales, nous avons accepté de risquer de nous retrouver à nouveau seuls. Regagnant la chambre silencieuse qui nous attendait chez nos parents, nous avons recommencé à ouvrir au hasard les livres qui dormaient dans la bibliothèque. Leur scepticisme amusé, leur pessimisme revendiqué eurent un effet libérateur sur nous. Parfois même, il suffisait d'un titre, comme le traité de la servitude volontaire de la Boétie, pour nous ouvrir les yeux. La conjonction de ces trois mots fut dévastatrice. Le révolutionnaire est un homme perdu d'avance, dis-je dans le catéchisme du révolutionnaire de Netchaïev, un nihiliste russe qu'affectionnait mes frères aînés. Il n'a pas d'intérêt particulier, d'affaires privées, de sentiments, d'attaches personnelles, de propriété. Il n'a même pas de nom. Il a perdu tout lien avec l'ordre public et avec le monde civilisé. Dur envers soi-même, il doit être dur également avec les autres. Tous les tendres sentiments qui rendent efféminés, tels que les liens de parenté, l'amour, la gratitude, l'honneur même, doivent être étouffés. À lire ce portrait, je n'étais plus révolutionnaire. À vrai dire, je doutais même que nous n'en avions jamais été. Échaudés par l'énormité de notre erreur, nous avons humblement réappris à penser par nous-mêmes. Cessant de croire au renversement de l'histoire, nous avons réintégré ce temps linéaire qui est le fait des hommes inscrits dans la société. Notre durée n'était plus régie par la perspective d'un lointain millénarisme laïque, mais par le souci de notre développement personnel. La liberté individuelle nous paraissait infiniment plus désirable que l'égalité universelle, soudain. Penser à sa destinée, chercher à faire sa place dans la société, passer par-dessus ses injustices pour signer les contrats, c'est ça d'être honteux. Délesté du fardeau de l'espérance collective, on se remit à vivre à son propre compte et à penser à la première personne du singulier. se soucier de soi semblait plus humain rétrospectivement que de chercher à imposer aux autres un accomplissement historique qui avait souvent pris l'aspect d'un anéantissement. Sortir du cercle enchanté de notre génération nous sembla soudain une forme de courage. Conscient d'avoir vécu ces années dans une sorte de somnambulisme actif, j'éprouvais le besoin de savoir qui j'étais. Y avait-il eu un pilote dans l'avion durant toute cette période? Je n'y croyais plus. Ou alors il y en avait eu plusieurs, semblait-il. Comment, de fait, reliait Claude, l'enfant que ses parents menaient à la messe, à la porte de Saint-Cloud, au préadolescent qui profita de la grève générale en mai 68 pour fuir l'appartement familial et découvrir l'Odéon occupé avec ses étudiants assoupis dans des costumes lucides et de fer? Par quel bien attaché le teenager, accumant les concerts pop et s'essayant à toutes les drogues, aux militants qui vendaient des feuilles révolutionnaires dans les couloirs du métro parisien, une casquette d'imprimeur sur la tête? Comment réconcilier ce frégoli à la voix d'ouvrieriste avec le tout jeune adulte qui s'était remis à lire avec ardeur pour tenter d'y voir clair en lui? Par où rattacher celui qui se faisait appeler Arnulf, le pseudo que toute organisation révolutionnaire exigeait de ses membres, à celui qui avait choisi de recommencer de vivre sous son véritable nom? Je me sentais gros de tout un tas de petites personnes qui faisaient entendre leur voix en mon fort intérieur, sans qu'aucune ne parvienne à s'imposer. Je ne savais plus à laquelle me rallier, déjà. Beaucoup s'en remirent à cette époque à la psychanalyse pour réunir les pots cassés. Ils partaient s'allonger sur le divan des disciples de Lacan plusieurs heures par semaine, dans l'espoir de rattraper le temps perdu. Ou bien ils préféraient se confier à l'école anti-édipienne dans l'entourage des Guattari. Je préférais ne devoir la vérité qu'à moi-même, pour une fois, quitte à y consacrer bien plus de temps et d'énergie que les autres. La seule idée que je puisse mourir sans avoir eu l'occasion de me connaître me désespérait. On ne peut devenir son propre thérapeute, j'en étais bien conscient. Du moins, voulais-je être mon seul analyste. J'avais beau ne rien comprendre à qui j'étais, douter même de ma sexualité, je ne supportais plus la brume dans laquelle je vivais. Réveillé intellectuellement, je décidai de reprendre mes études. Après avoir hésité avec l'histoire, je choisis délibérément la littérature. Il me fallait réintroduire des nuances dans une conscience qui avait pu colorer d'une teinte unique, stimuler un imaginaire que la Révolution avait monopolisé durant des années, acquérir enfin une vision personnelle. Conscient d'être seul à habiter mon corps, d'être seul responsable de ma personne, je décidais d'en tirer le meilleur parti. L'enseignement de Roland Barthes allait m'aider. Assez sensible pour donner vie aux idées les plus abstraites, l'auteur de mythologie ne formulait de propositions que personnelles, relatives et souvent réversibles, au contraire de nos maîtres à penser d'avant. Après une décennie d'engagement collectif, où la littérature elle-même était tenue pour un mode de production comme un autre, la conscience de l'auteur opérant comme un métier à tisser, Barthes avait été l'un des premiers à s'accorder à nouveau le droit de dire « je ». Les gardiens du temple avaient eu beau gronder contre cette régression humaniste, la transgression avait été si féconde que nous étions toujours plus nombreux à suivre ses cours au Collège de France. Avec sa voix chaude et onctueuse, ses gestes lents et ouatés, sa carnation douce et pâle, Barthes est l'image même de l'abondance, de la réserve et de l'humanité. Son goître peut trahir le confort alimentaire de la bourgeoisie provinciale. Il évoque d'abord le garde-manger naturel du pélican, plein de bonnes choses pour sa descendance. Son intelligence est si vaste que je ne sais plus parfois qu'en faire. Submergé par les citations latines et les étymologies grecques, je repose mon stylo et me laisse prendre par cette voix de velours formée avant-guerre par un ténor. Elle se répand comme une cire tiède dans les tympans. La littérature reprend soudain vie à mes yeux et les oreilles. Je retrouve les formulations sinueuses, l'élégance native et les préciosités de Gide que j'avais tant admiré adolescent. Tout ce que Barthes dit paraît déjà écrit comme prêt à l'impression, sans la moindre rature. Ne rencontrant en lui aucun rival sérieux, désir, sport ou coquetterie, le langage semble avoir trouvé en cet homme pondéré un organisme idéal pour s'incarner. par lui le monde est pensé, jaugé, formulé, non plus de façon idéologique mais littéraire, avec le moins de préjugés et le plus de nuances possible. Un sentiment de reconnaissance me gagne en présence de cet homme d'âge et d'habitude. Barthes est si peu révolutionnaire d'aspect, avec ses tweeds et ses cols roulés, si proche de mes préoccupations en même temps. En quête d'une pensée qui m'aide à vivre, après celle qui ne craignait pas de tuer, je fais mon miel de l'expérience qu'il n'a peut-être pas su mettre à son propre service. Barthes paraît toujours prêt à penser autrement que la scène précédente, et cette mobilité, ce possible repentir, me semble le saut même de l'intelligence, jamais arrêtée, encline à s'amender, toujours vivant. Il pensait dans d'autres têtes, et dans la sienne d'autres que lui pensait, notait déjà Paul Bosch, dans d'autres circonstances. Dès lors, il n'y a plus de frein à notre désir d'épanouissement individuel. Ayant recouvré le droit d'être ce qu'on était, nous ne nous battions plus que pour la seule satisfaction de nos désirs et notre épanouissement. Qui aurait pu nous l'interdire? La société marchande elle-même semblait prête cette fois à les assouvir, ayant compris tout l'intérêt qu'il y avait à nous dire oui. Tout concourait cette fois à nous satisfaire. Nous croyions encore être une minorité active, comme à l'époque où nos aînés demandaient, dans la Sorbonne occupée, à jouir sans temps mort et à vivre sans entrave. Il ne nous fallut qu'une décennie pour découvrir que cette façon d'être avait à son tour engendré une forme irrésistible d'attraction. De la côte californienne à la Chine redressée, des millions d'êtres n'avaient plus que leur seule réussite, leur éclat matériel et physique, leur santé musculaire et financière en tête. Il n'usait plus que d'un seul prénom, le jeu obsédant du « parce que je le vaux bien ». Le « moi » était redevenu l'enjeu central de l'économie, de la communication, de la culture y compris, la littérature allait bientôt l'illustrer. Assez de tout misé sur l'histoire, nous avions contribué à susciter l'essor mondial d'un redoutable individualisme de masse. Du tout pour le peuple, nous étions passés au tout à l'ego. Le destin acheva de nous disperser. Après avoir projeté les membres de notre génération à des années-lumière l'un de l'autre, il creusa encore les distances, en couvrant de succès les plus doués et d'or les plus âpres, en reléguant dans l'obscurité la routine la plupart. N'accordant le bonheur qu'à quelques élus, il condamnait les autres à des vies de famille bancales ou à un célibat perpétuel. Il ne faudra là encore qu'une grosse décennie pour que cette logique, en s'accusant, ne débouche sur la crise financière et morale qu'on connaît, plongeant des milliers d'êtres dans la précarité, les jetant hors de leur travail ou de leur domicile, jusqu'à les réduire à la simple survie parfois. L'individualisme forcené avait réussi à briser les liens de solidarité les plus anciens. Il serait obscène à mes yeux de comparer terme à terme ces deux formes de dérive. La première fit des millions de morts, condamnant des foules entières à l'esclavage et au silence, et pour leur bien supposé. La seconde se contente, si l'on peut dire, de priver des milliers d'existence, de revenus et d'entourage. Mais elle est aussi une façon lente et insidieuse de les tuer en les réduisant à l'état de déchets. Jamais peut-être dans l'histoire des systèmes de valeurs aussi antagonistes se succédèrent aussi vite et produisirent des ravages aussi manifestes. Ils auront mis à chaque fois quatre vers le pire, avec cette précipitation, cette démesure, cette hubris qui horrifiait déjà les Grecs, eux qui voyaient dans toute forme d'exagération, non pas un péché, ils ignoraient jusqu'à cette notion, mais le pire crime qu'on puisse commettre contre la civilisation. Comment ce mouvement de pendule n'aurait-il pas un effet déboussolant? Et que dire en voyant ressurgir des collectivismes d'origine religieuse dont l'histoire nous a si souvent montré de quels crimes ils sont capables? Le bilan de ces emballements successifs est si peu encourageant que personne ne paraît plus avoir la faculté de relancer des collectivités positives. Nos dirigeants eux-mêmes perdent chaque année de leur pouvoir, donc de leur force d'attraction. Plus personne ne semble à même de diriger la machine globale. Le monde a de soi, disait déjà Médicis au plus fort de la Renaissance. Il peut paraître étrange dès lors de demander à un écrivain son opinion sur tous ces sujets. C'est un être passant seul ces journées qui vous parle, même s'il lui arrive deux ou trois fois par an de parler devant des assemblées comme dans ce village si accueillant. C'est un individu qui passe son temps à traduire en mots ce qu'il perçoit des êtres, en se fiant à sa seule sensibilité, et à qui on ne demande jamais de résultats concrets. C'est une exception qui vide sa singularité et fait en quelque sorte métier d'être soi. Est-il donc le mieux placé pour discourir des désavantages comparés d'un collectivisme assassin et d'un individualisme mortifère? Je ne le pense pas, honnêtement. Je me suis beaucoup trop souvent trompé dans ce domaine, quoi qu'il en soit, pour prétendre encore montrer le chemin. La politique est restée à mes yeux le lieu où on est presque certain de se tromper. Elle apparaît comme un discours qui, à force d'impliquer des millions d'êtres, occulte nécessairement sa propre vérité. Les promesses qu'elle ne peut plus tenir me font immanquablement penser au livre que Beckett projetait encore d'écrire sur le tard. Essayez, disait-il, ratez. Essayez encore, ratez mieux. Si je me sens néanmoins d'apporter ma pierre à l'édifice fragile de ces journées, c'est à partir de ce retrait et de ce scepticisme qui sont les miens. C'est parce que je suis seul au plus profond de mon être, comme chacun d'entre nous, mais aussi seul dans mon travail, c'est déjà moins fréquent, que j'ai pu me pencher, avec un mélange d'attirance et d'effroi, sur les êtres que j'ai successivement été durant ces décennies contradictoires. Et si j'ai suivi une politique depuis, ce fut d'essayer de rassembler ces étrangers que mon corps aura portés à travers le temps. C'est pour avoir eu tôt conscience d'être autant d'individus successifs, en partie empruntés ou contaminés par autrui au gré des époques traversées, que je me suis mis à écrire. Si je parviens aujourd'hui à faire cohabiter ces versions de moi-même, la formule avait à longtemps été instable. Aucune de ces versions ne détenait ma vérité, me semblait-il. Je n'étais pas ma propre essence. Les actes, les émotions, les idées s'installent brusquement chez un personnage, ils font leur nid, le quittent, sans qu'il y soit la même pour grand-chose, écrit Sartre, les romans de Dos Passos. C'est ainsi que je le vois encore. La mort précoce de mes frères aînés m'aura donné une preuve éclatante de cette multiplicité. La violence déchirante de leur départ m'a physiquement confirmé tout ce que je leur devais. Non seulement mes pullovers raccommodés et mes vestes augmentées de coudes, mais une forme d'intelligence critique et d'ironie. Plus encore que mes parents, peut-être, ils ont contribué à m'engendrer, comme j'ai tenté de montrer dans le cas de tes frères. Ils sont en quelque sorte les épées de cet autoroman de formation. Alors qu'ils avaient tant de moyens, ils avaient refusé jusqu'au bout de prendre leur place dans la société. Ils s'étaient acharnés à ne pas baisser la garde, à ne pas brader leur singularité dans le consumérisme ambiant. Ils étaient restés fidèles au refus de l'arrivisme et du carriérisme qui avaient marqué les années 70. Trop orgueilleux pour se plier à l'état de fait, ils avaient continué à se cabrer contre l'ordre établi, chaque jour un peu plus seul. Que l'aîné se soit révélé schizophrène à l'âge de 20 ans, avant de se suicider 10 ans plus tard, m'a paradoxalement aidé à reconnaître ce qui, en moi, lui faisait écho en sourdine. Cette tendance à se dissocier de soi m'avait aidé à devenir Cocteau ou Champfort le temps d'écrire leur biographie. Une aptitude que l'écriture exalte, puis apaise, Dieu merci, une fois le livre fini. Comme si j'avais la possibilité de mettre ma personnalité en jachère pendant un temps, pour la cultiver au profit d'un autre comme moi. Mais ce mot de frère, il faut l'entendre dans son sens plus large. Il englobe aussi ceux qui marquèrent ma génération en expérimentant avec panache les formes de vie et d'action qu'elle tenta d'inventer. Beaucoup y laissèrent leur santé, leur lucidité ou même leur peau. Mais je leur dois certains de mes rêves d'alors. Une part de moi a été coproduite par eux, à l'âge où ce moi restait pour eux. J'ai longtemps cru que le hasard dictait mon destin, même si j'en étais physiquement l'auteur. Le temps passant, je le vois comme la traduction dans le monde visible d'un texte caché dont ma génération serait le consignataire. J'avais obscurément conscience qu'elle s'écrivait à travers moi, donc que j'aurais un jour à témoigner d'elle, comme de cet esprit d'enfance qui m'unissait à mes frères, avec ce qu'il suppose de refus de la réalité, de désobéissance civile, d'insolence spontanée. Ce mot de frère, je pourrais l'utiliser encore pour désigner les deux hommes avec qui j'abordais les années 80, alors même que j'envisageais d'écrire. Enfin, deux fils uniques, curieusement, qui n'avaient jamais porté de veste élimée, ni souffert du sadisme affectueux de leurs aînés. qui vivait avec assurance, sans la moindre culpabilité, et auquel j'ai rendu hommage en brève saison au paradis, de son bon volume, de son roman Information. Deux aînés qui surent me faire oublier ceux que j'avais perdus et m'autorisèrent à être moi-même exactement. C'est donc parce que je suis allé loin dans l'étude de ma propre genèse, comme dans l'exploration des écrivains dont j'ai pu écrire la vie, que je peux revenir vous assurer, avec calme et conviction, qu'il y a en nous de la place pour beaucoup plus que nous. Ces voyages au bout de la personnalité m'ont donné la conviction. Une part de notre être ne dit pas « je », mais « tu » ou « nous ». Cette part aspire à une forme de vie presque anonyme, aussi simple qu'organique. Elle est plus proche de l'impulsivité animale que de l'expérience artistique, de la candeur végétale que de la claire conscience de soi. Souple comme l'algue, elle aime dériver au gré des foules. Toute forme d'achèvement individuel l'agresse. Elle préfère les torpeurs collectives ou les grandes fièvres politiques. Silencieuse, cette part de notre être n'attend que de s'associer à d'autres. Elle rêve d'échapper à son étroite existence solitaire pour éprouver l'ivresse océanique d'exister à plusieurs. Elle serait prête à abandonner ses joies narcissiques et ses micro-ivresses consuméristes contre l'assurance de jouir d'un sentiment profond d'appartenance collective. Elle a beau savoir les dangers inhérents à cette jouissance, elle ne peut y résister longtemps. Ses attentes sont si puissantes, son besoin de dépassement si profond. Adhérer à une foi renfort, elle le sait, or il s'en propose toujours de nouvelles. C'est parce que je ne voudrais pas revivre les tueries asiatiques et que je crains déjà les horreurs que les religions savent engendrer, que j'aimerais suggérer à chacun d'être attentif. À la marge du monde, bien sûr, mais aussi et peut-être surtout à sa propre histoire. Car c'est en s'avouant ces contradictions qu'on aura une chance d'établir un rapport équilibré avec soi, comme avec ses divers entourages. C'est en se connaissant mieux qu'on aura une chance d'exister, à la fois individuellement et collectivement, sans tenir aux autres et à soi. La reconnaissance de cette pluralité intime est même une étape nécessaire, me semble-t-il, au réveil d'un sentiment modeste mais lucide d'appartenance collective. Savoir qu'on aurait pu être différent, qu'on aurait pu, dans d'autres circonstances, développer d'autres moi que celui qu'on abrite, devrait nous aider, à terme, à nous envisager comme des êtres inessentialistes, bien plus adaptables qu'on ne le croit. Cela pourrait nous pousser à trouver place dans des ensembles humains plus vastes que notre entourage direct, qu'il soit amical ou familial. L'aveu tacite de notre démocratie interne pourrait favoriser la consolidation de l'externe, en nous rendant plus tolérants envers des formes de vie qui nous sont a priori étrangères, en admettant qu'on aurait pu naître ailleurs, aimer autrement, parler une autre langue, ou pratiquer une autre foi, si on en pratique une, on apprendrait à dire aussi bien « nous » que « je », à penser « toi » comme « moi ». Je ne crois pas pourtant qu'on devienne si aisément citoyen du monde. J'ai beau parler plus ou moins bien deux langues étrangères, je me pense d'abord dans la nôtre. En anglais ou en italien, je réfléchis à ce que je vais dire et comment je vais le dire. Dans ma langue, c'est elle qui réfléchit pour moi le plus souvent. J'ai beau savoir qu'à un autre siècle, j'aurais pu être élevé dans cette forme d'italien que l'on parle encore en Corse, d'où ma mère provenait, j'ai bien grandi en français. J'aurais pu être, mais je ne suis pas toujours. J'ai eu beau explorer une facette de mon identité, je n'aime pas en avoir une. Je ne déteste pas mon pays, même si je connais ses défauts. Je ne rejette pas ma culture, même si j'en perçois les limites. C'est parce que j'ai été plusieurs que j'accepte de former avec d'autres une entité collective, nationale ou supralocale, méditerranéenne en l'occurrence. Ne pas s'adorer collectivement, ne pas se sous-estimer non plus. Vivre en bonne entente avec soi, y compris nationalement. Ni exaltation de l'identité collective, ni dénégation de celle-ci. Ce besoin d'existence plurielle, je ne le ressens pas qu'intellectuellement, il est aussi physique. N'avoir affaire qu'à soi dans son travail de chaque jour est parfois lassant. L'écriture est une discipline si dure que j'en viens à rêver d'intégrer un cœur, pour le seul plaisir d'entendre ma voix s'élever à l'unisson avec d'autres, ou en réponse à elle. J'ai envie de remplir la mer que d'autres respirent, d'expectorer des notes et des sons produits par d'autres poitrines, de m'agrandir par la voix. J'ai besoin de connaître cette ivresse qu'on éprouve en contribuant à l'essor d'une mélodie plus vaste que soi. Il m'est peut-être arrivé d'écrire, dans la solitude, un ou deux livres plus grands que moi-même, ce fut toujours une surprise. Et la satisfaction que j'en tirais fut le plus souvent différée. J'envie le petit miracle qu'opère à l'instant un cœur harmonieux, s'amplifiant lui-même dans l'espace et le temps, au-delà des corps qui le composent. Quelque chose m'empêche pourtant d'aller au bout de mon désir, de m'inscrire dans une école, d'aller frapper à la porte d'un conservatoire. J'ai peur de mal chanter. J'ai peur d'avoir à le faire avec des voix peu compatibles. Je crains de tomber sur des personnalités avec lesquelles, pour finir, je n'aurai pas grand-chose à partager. J'ai si bien appris à reconnaître ce que j'aime ou ce que je rejette, musicalement aussi, que je crains encore qu'on ne puisse s'entendre sur le choix même des mélodies à chanter. Et apprendre à jouer collectif, mais avec qui? Chanter a cappella, mais sur quel air? C'est le problème qui se pose à nous après tant d'années d'individualisme exacerbé. Les chanteurs des rues entonnaient des airs à l'accordéon sous les fenêtres de notre immeuble quand j'étais enfant. Les Parisiens étaient capables de reprendre leurs airs sur les marchés, au sortir des stations de métro, sur les bords de la Marne. La spéculation a vidé depuis la capitale. Le peuple en a été chassé comme les commerces qui le faisaient vivre. La musique ne se consomme plus qu'en solitaire, dans la rue, à travers des prothèses électroniques. Et le prix à payer à cette solitude est lourd, on le sait. Il faudrait donc réapprendre à chanter à quelques-uns, par affinité, pour cesser de ressasser nos malheurs, qu'ils soient bien réels ou relèvent de la hantise, sinon d'une forme de conjuration par anticipation. Pour sortir de cette dépression nationale qui, dotée de profonds ressorts, est aussi encouragée par la peur de s'attirer la foudre en ayant l'air un tant soit peu heureux. Pour s'autoriser à nouveau la joie sans passer pour un égoïste forcené, un idiot ou un traître. L'enthousiasme sonore comme thérapie collective. Chanter ne changera pas nos vies. Tout comme la rencontre des bons partenaires, et peut-être en trouverai-je ici, ne me fera pas abandonner la pratique solitaire de l'écriture. Mais cela nous aidera peut-être à entendre d'autres sons de cloche dans la déploration ambiante. Comme ça pourrait m'aider à reconnaître, au-delà des petites voix qui me hantent et que je tente d'harmoniser dans mes livres, qu'il existe au-dehors d'autres voix qui ne demanderaient pas mieux, elles aussi, qu'à se faire entendre, et qui ne sont jamais si belles, si touchantes même, que lorsqu'elles rencontrent des frères, ou plutôt des sœurs, et entonnent un chant qui les dépasse. C'est en unifiant les diverses composantes, comme en redonnant voix à mes frères morts à travers l'écriture, que j'ai pu trouver une légitimité à ma personne et un sens à ma vie. Mais peut-être, en apprenant à chanter à l'unisson, éprouverai-je enfin ce sentiment que l'histoire nous fit miroiter il y a 30 ans, celui de connaître une sorte de petit paradis laïque, humble et provisoire de notre vivant. Chantons, même si c'est en silence. Partageons ce qui peut l'être et pour le reste, restons lucides. Merci.